شكرا سيدة رئيسة، السلام عليك ومرحبا بكم يا شخصيات من دولة مهال ديبيا هالوكي هيني. Je voudrais à mon tour souhaiter la bienvenue à la délégation de haut niveau de la République des Maldives et me réjouis de l'opportunité de dialoguer avec vous sur des questions vitales de droits de l'homme, en particulier les points 6 et 7. Je vais commencer par la gestion de la pandémie de la COVID-19 qui a souvent obligé le gouvernement à prendre des mesures extraordinaires pour y faire face. Ces mesures, cependant, doivent obéir aux règles de nécessité et de proportionnalité, tant dans l'intensité des dérogations qu'elles peuvent imposer que dans la durée de celles-ci. La République des Maldives peut-elle nous dire si la loi adoptée en 2020 sur l'urgence de santé publique comporte de telles mesures exceptionnelles dérogeant aux droits protégés par le pacte? Pourriez-vous également fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que l'état d'urgence ne permette pas de déroger aux provisions non dérogeables du pacte, notamment la prohibition de la détention arbitraire? Si oui, l'état parti peut-il préciser les précautions qui ont été prises pour que les mesures dérogatoires respectent les principes de nécessité et de proportionnalité et que leur impact n'affecte pas de façon disproportionnée la liberté de mouvement, la liberté de réunion, la liberté d'expression, notamment des catégories les plus pauvres de la société maldive et aussi les travailleurs migrants. Y a-t-il des mesures pour compenser la perte de revenus qui, pour les plus vulnérables, pose tout simplement un problème de survie? Y a-t-il eu accès à la vaccination sans discrimination de genre, d'origine, de nationalité, de religion ou de revenus et sans atteinte à la vie privée? La fin de la pandémie de la COVID-19 a été annoncée le 6 mai 1923 par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que la loi d'urgence sanitaire a été abolie depuis? Si elle reste toujours en vigueur, qu'est-ce qui justifierait sa survie? Je passe maintenant au point 7 qui concerne le contre-terrorisme et les mesures de surveillance. La recrudescence sous diverses formes et pour divers motifs des actes de terrorisme interpelle toute société démocratique sur l'équilibre à observer entre le besoin de sécurité tout autant que le besoin de renforcer l'état de droit et les valeurs les plus élevées d'une société que ceux qui se livrent à des actes terroristes veulent précisément ébranler. J'ai fait moi-même partie du premier comité antiterroriste mis en place par le secrétaire général de l'ONU d'alors, Yarahmu Kofi Annan, en 2001, à la suite des attentats terroristes et des opérations de contre-terrorisme qui s'en sont suivies. Il est devenu rapidement évident que le succès de la lutte antiterroriste exige plus de respect des droits de l'homme et non le contraire. Et si on veut s'attaquer aux causes du terrorisme et si on veut assécher l'embrigadement et le recrutement de nouveaux terroristes. Le gouvernement actuel affirme que la loi sur la prévention du terrorisme a été largement abusée par le gouvernement précédent pour réprimer les activités des militants de la société civile et des responsables politiques de l'opposition. Il se félicite de ce que la loi réformée en 2019 a maintenant une définition du terrorisme plus conforme aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et ne permet plus une utilisation abusive contre des dissidents. Or, la loi actuelle continue de définir les actes terroristes en des termes susceptibles d'interprétation très large, tels que, je cite, « préjudice grave causé à autrui », »,« l'atteinte à la santé et à la sécurité publique sans autre précision », »,« les opinions politiques ou religieuses extrémistes ou radicales », pour en citer quelques-uns. Y a-t-il des décisions administratives ou des jugements qui ont permis de préciser le contenu de la loi? Si oui, y a-t-il des exemples que vous pourriez fournir au comité? Combien de personnes ont été arrêtées sur la base de cette nouvelle loi et de cette nouvelle définition? Combien ont été jugés et quelle partie de la large définition légale a été invoquée pour les incriminer? Est-il envisagé d'inviter un expert des Nations Unies, par exemple le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et le contre-terrorisme, pour aider le gouvernement à réviser la loi, pour s'assurer de ne pas tomber dans les excès reprochés au gouvernement précédent? Je vous remercie de votre attention et vous remercie par avance de vos réponses. Merci.